La semaine dernière, dans la santé au-delà des mots.
Christian, c'est quoi un patient partenaire?
Ben, pour moi, un patient partenaire, c'est quelqu'un qui a vécu avec une maladie. Puis qui fait profiter... Qui a vécu une maladie ou un proche, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai inclus le proche aidant. Un proche aidant peut également, sans avoir vécu avec la maladie directement, mais l'avoir vécu... avec la personne qui est atteinte d'une maladie. Donc, c'est quelqu'un qui veut mettre son expérience patient au bénéfice du réseau de la santé afin d'améliorer la prestation de service.
Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
Je reçois... pour la deuxième partie de notre entrevue, M. Christian Chabot, citoyen engagé et patient partenaire. Comme vous l'avez appris la semaine dernière, Christian a eu des problèmes de santé à partir du milieu des années 90. On suivit certaines complications qui l'ont amené à se pencher sur le fonctionnement du système et sur les façons de l'améliorer. Cette semaine, nous poursuivons notre entretien sur le concept du patient partenaire et sur les divers projets auxquels mon invité a participé au cours des années. Un deuxième segment d'entrevue qui nous amène à réfléchir sur la façon dont nous pouvons tous, comme citoyens, participer à l'amélioration du réseau. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado « La santé au-delà des mots » Beauchamp, Beaulieu, Dessureaux, Toupin, Groupe Conseil, associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teige, Eurofin Environex et Go Mouton.
Je t'écoute. Un, ça donne le goût d'être patient partenaire, mais j'ai l'impression que tu retires autant que tu donnes, peut-être plus même. Ouais,
plus.
Parce que ça a l'air d'être une source de satisfaction intense.
Ouais. Ça me fait grandir tout le temps. Mm. Je peux pas aller m'asseoir.
C'est déjà pas mal grand, là, mais...
Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ça fait grandir mon âme.
C'est quoi la... patient partenaire, puis expérience patient, ça se rejoint?
Ça se rejoint. Moi, d'après moi, je regarde un peu le définition. Tu sais, c'est comme expérience client. Tu sais, expérience patient, pour moi, c'est quel genre d'expérience tu as vécu le système de santé, comment tu peux l'améliorer ou des suggestions que tu peux faire. Mais dans l'implication du patient partenaire, tu sais, on est là parce que les gens sont intéressés. Ils veulent améliorer, ils ont des suggestions. Fait que pour moi, c'est...
Ça se recoupe.
Oui. Pour moi, le patient partenaire peut être très bien faire de la consultation comme ton monsieur.
Monsieur, j'avais reçu Pierre Denne de Hope Conseil, puis ce qu'il m'avait confié de mémoire. Donc, c'est qu'au Québec, en termes de patient partenaire, on a une longueur d'avance, mais au niveau de l'expérience patient, on a peut-être un peu de retard. Donc, je serais curieux éventuellement peut-être de vous avoir... tous les deux.
Ouais.
Puis je pense qu'on pourrait avoir un entretien très intéressant.
Ouais, mais j'ai mon idée là-dessus. Je vais attendre.
Aurais-tu des questions à lui poser?
j'ai quelques. Je pourrais avoir quelques questions.
Je servirai de modérateur.
Absolument. Ça va faire... Mais on voit que les intérêts sont les mêmes.
Tout à fait.
C'est ça.
J'aimerais ça que tu me parles, justement, comme tu disais, les projets de recherche auxquels tu as participé, même. Dont tu as fait la promotion, même instigateur à certains égards, donc notamment en pneumologie, Puis le deuxième qui m'intéressait beaucoup, c'est sur le diabète, puis la petite montre Fitbit. Donc,
La montre connectée, oui.
Donc, si on commençait peut-être par la pneumologie, disons.
C'est celui qui est en cours comme tel. J'ai eu la chance, comme patient partenaire, de travailler avec l'équipe STAT du ministère de la Santé. L'équipe STAT, c'était le tour de 25 urgences au Québec pour regarder la fluidité des urgences, puis faire des recommandations. Fait qu'on était une équipe de 7, je me souviens bien, là, qu'on n'était pas beaucoup, mais chacun faisait ses recommandations. Il y avait les gens du ministère, il y avait le docteur Berger qui était là.
Docteur Berger Pelletier que j'ai reçu.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est grâce, en tout cas, à cette direction-là. Madame, peut-être que c'était Mme Lucio Paterny qui était la sous-ministre adjointe dans ce temps-là, puis docteur Berger qui était la directrice générale à ce moment-là. D'être dans l'équipe, on m'a sollicité pour être dans l'équipe, puis comme tel, puis j'ai adoré l'expérience, parce que là tu sais pourquoi tu le fais, là, tu sais, on était en pandémie, là, fait que là, on a fait cette tournée-là au Québec, puis ce qui est sorti de là, c'est que je suis arrivé dans un hôpital, puis il y avait des lits qui étaient sur un étage de disponibles, pas de patients, parce que pas de ressources. On entend beaucoup parler de manque de ressources. Peu importe le domaine, je pense que c'est... Mais dans la santé, ça nous touche encore plus, parce que il n'y a pas personne qui n'est pas impacté par ça. Fait que là, quand j'ai fini... Puis en cours de route, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, comment la technologie pourrait... Tu sais, parce que je considère que la technologie est un levier essentiel à l'amélioration des soins. Comment la technologie... pourrait contribuer à améliorer l'environnement de travail des gens qui y travaillent. On parle d'infirmières, médecins et compagnie, là, les préposés bénéficiaires, les adjoints administratifs. Puis, il y avait eu une annonce de M. Legault ou M. Dubé, 3 000 adjointes administratives, les infirmières feront plus de cléricales ou moins de cléricales, puis pour donner ça à 3 000 adjointes administratives, qu'on va engager. Bon, est-ce qu'on est capable d'engager 3 000? Je ne sais pas. T'sais, on a encore une rareté de ressources, à ce que je cherche. Fait que là, je me suis reviré de bord, puis là, j'ai discuté avec un ancien collègue, puis j'ai dit, bon, OK, on a cette problématique-là. Moi, d'après moi, on aurait quelque chose à faire là-dessus, t'sais, pour ne serait-ce que pour diminuer la tâche des gens, si on est capable de libérer plus de temps, comme tel, on est-tu capable à ce moment-là de leur permettre de voir plus de patients pour les infirmières, puis augmenter peut-être les ratios? Je m'attaque à quelque chose que je contrôle pas, là.
Mm-hmm.
Mais finalement, on a réfléchi à ça, puis j'ai bâti un business case. J'ai dit, OK, la problématique, c'est le manque de ressources, évidemment. Après ça, le gouvernement va engager du monde, enlève le clérical, OK? Parce que je me souviens, pour avoir fait souvent, les hôpitaux, ils écrivent fréquemment, ils remplissent des dossiers manuellement.
Mm-hmm.
Dans tout ça, il y a sûrement du travail qui est peut-être moins nécessaire de le faire manuellement, qui pourrait très bien se faire par l'automatisation. Fait que j'ai approché 2 chercheurs de l'Université Laval avec lesquels j'avais déjà travaillé. Une chercheuse, entre autres, qui s'appelle Marie-Pierre Gagnon, qui était à la faculté de licence infirmière à l'Université Laval. Puis je parle du projet, puis ça, elle trouve ça super intéressant. Après ça, elle a amené un autre chercheur. Lui, il est à la faculté des sciences administratives. Il s'appelle André Côté, qui a déjà fait des trajectoires de soins. Fait que les deux embarquent. Je fais les présentations de mon côté, pour faire de jeu de mots, au bureau de l'innovation, parce que je savais que le ministère de la Santé avait un bureau qui appelait le bureau de l'innovation. Il y a la direction des technologies d'information, la DGTI qu'on appelle, mais également le bureau d'innovation. J'ai dit, sachant très bien que, malheureusement, avec le travail qu'ils ont à faire de la DGTI, là, le bureau d'informatique, mon projet risque de peut-être même pas être capable d'être présenté. Puis je trouvais que c'était factuel, puis je trouvais qu'on avait besoin de ce genre de solution-là pour essayer de résoudre une problématique de manque de ressources.
Mm-hmm.
Puis... finalement, je prends ça au bureau d'innovation, décide de être intéressé à ce projet-là, parce que ça répondait à des besoins qui étaient qui adressait toute la population. Fait qu'on a commencé à bâtir le projet de recherche. Puis on est arrivé à l'hôpital Laval, l'ICUPQ. Puis, parce qu'eux autres, ils allaient avoir une nouvelle aile pour la pneumo. Ben, ils vont avoir une nouvelle aile pour la pneumo. On a décidé de prendre ce projet-là avec le PDG du moment, Denis Bouchard, puis de faire un projet pilote. Fait que donc, l'objectif du projet, c'est de refaire des trajectoires de soins pour la pneumonie, la fibrose, puis le MPOC. Cancer du poumon, on n'y touche pas pour l'instant, parce que c'est quelque chose de différent. Donc, revoir la littérature, refaire les trajectoires de soins, sortir ce qui n'a pas de valeur comme tâche, puis qui est récurrent. Donc, on ressort ça, puis on automatise ça. Donc, l'objectif, en bout de ligne, c'est est-ce que les hypothèses qu'on émet, on va être capable de permettre d'avoir plus de temps qualité pour les infirmières, pour les médecins, puis personnel soignant, donc, d'avoir meilleur temps qualité pour soigner le nombre de patients actuels ou plus, puis créer un environnement de travail intéressant. Tu sais, quand on parle de rétention de ressources, là, je pense qu'un environnement de travail quand tu fais des tâches qui sont récurrentes, qui n'apportent pas de valeur, là, ça devient fastidieux.
Mm-hmm.
Je pense que c'est les objectifs qu'on poursuit actuellement. Si on est rendu à l'étape qu'on a des données, on a interrogé pas mal tout le monde à l'étage où on s'attaque, là, c'est-à-dire au cinquième étage. On a présenté des données, des entrevues qu'on a faites en cours de route. Là, on a une bonne idée de ce qu'on va ressortir. Là, on va ressortir après ça les éléments pour l'automatisation puis faire la preuve de concept technologique. L'objectif, après ça, ben, c'est être capable de le faire, trajectoire de soins, pneumo, pour être capable de le déployer dans les endroits où ils font de la pneumo. Mmh.
Mais ça pourrait s'appliquer à d'autres...
Ensuite de ça, pour la pérennité, comme tel, ben, ça serait faire d'autres trajectoires de soins, comme tel. Puis, dans l'évolution, moi, ce que je vois, c'est que comme ça évolue fréquemment, là, ben, ça évolue la pratique, créer avec des chercheurs une espèce d'institut de numérisation des trajectoires de soins, parce que on sait que les pratiques changent en cours de route, il faudrait mettre à jour nos pratiques comme on le fait là, en laboratoire, puis après ça, le déployer. Donc, créer une espèce d'incubateur, si on veut, pour être capable de s'assurer qu'on garde nos ressources qui font ça, puis être capable de déployer ça à travers le Québec après ça.
C'est intéressant que tu dises « je t'écoute » parce que tu parlais de tâches cléricales, puis au niveau du corps médical, il y a beaucoup, beaucoup de papiers. Puis, je te disais, pour nous, c'est un enjeu parce que c'est plus ou moins abordé parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu de ressources humaines. Là, comme dans mon cas, par exemple, ouais. Moi, si je fais de la clinique externe, je ne finis pas à 3h30. Là.
Ouais.
Je finis quand j'ai fini.
C'est ça.
T'sais, donc, ça n'a pas vraiment d'impact de nous imposer des tâches cléricales supplémentaires. Puis, c'est des petits ajouts périodiques qui... pris un à un, ont peu d'impact. Là. Mais je te donne un exemple. Là.
Ouais.
C'est ma pause corporative. Mais un exemple, disons, quand on remplit les requêtes opératoires. Donc, moi, je vois M. Christian Chabot qui a un cancer du côlon. Là, il faut que je demande 3 examens. Peut-être un scan et peut-être demander une consultation en pneumologie, tout ça. Alors, sur la requête opératoire, nous, jusqu'à récemment, on inscrivait, mettons, scan thorax abdo-pelvien. Information, 2 points, cancer du côlon, bilan, point. Puis là, on écoute. Peut-être qu'on écrivait en dessous consultation en cardiologie, 2 points, antécédent de remplacement de valve aortique. Fait que ça me prend peut-être 10 secondes. Alors là, la nouvelle directive, c'est vous allez devoir remplir vous-même vos requêtes. T'sais. C'est sûr que pris de façon isolée, c'est pas beaucoup. Mais quand tu rajoutes ça en bout, ça fait beaucoup de temps. Puis ultimement, ben, ça fait peut-être que dans le futur, on va avoir peut-être moins de patients. Éventuellement, on va peut-être prendre la décision de dire non, il faut arrêter. Là, comme moi, personnellement, je peux te dire que c'est facilement 3-4 heures par semaine de papier.
Oui, parce
alors,
que je
calcule le nombre de patients. Ouais. Mettons, mets un patient aux 15 minutes, là, donc peut-être 15-20 patients par semaine que je ne peux pas voir parce que je fais du papier.
Ouais.
Dans notre cas, puis vraiment, ce n'est pas l'enjeu de la discussion aujourd'hui, mais dans notre cas, c'est comme un peu en à côté parce que c'est en plus de, c'est pas au lieu de. Il y a une petite nuance.
Ouais, ouais.
Ça va être adressé éventuellement, mais...
Ben, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que si vous avez moins de temps de voir des patients, on a un problème d'accès.
Il y a des statistiques qui sont sorties pour les médecins de famille dans l'année, puis dans les cas des médecins de famille...
On parlait de 25 20-25 je ne sais pas si... Mais je n'ai pas de misère à le croire.
Dans le cas des médecins de famille, je pense, eux, l'incorporent dans certains cas un peu plus dans leur horaire, puis vraiment réduisent le nombre de patients qu'ils peuvent voir parce qu'ils doivent incorporer des tâches... administrative dans leur horaire. Donc,
moi, j'aimerais ça arriver justement, soit avec la FMSQ ou soit avec la FMOQ, faire un projet dans lequel, avec de l'automatisation, l'intelligence artificielle, on soit capable justement de sauver du temps pour vous permettre d'avoir plus de patients.
C'est ça. Parce que, par exemple, on pourrait imaginer, si je vois encore une fois un patient qui a un cancer du côlon, la machine sait que je vais demander un scan thorax abdo-pelvien. Pourrait générer la requête.
Ben oui,
c'est un peu ça dont on parle.
Oui.
Tu
sais, ma mère, elle limite. On parle de formulaires. Tu sais, les médecins de famille ou les médecins spécialistes. Bon, en tout cas, les médecins de famille remplissent plus, je pense, de formulaires d'assurance.
Probablement.
Tu sais, bon, je pense qu'à un moment donné, la normalisation de. Je pense que ça discute, là, mais tu sais, avoir des formulaires normalisés également, puis être remplis par. Les données qui sont déjà là. Là puis, donc, c'est des choses qui pourraient se faire, puis ça sera au bénéfice de tout le monde. Fait que le problème d'accès, ça en a un autre problème d'accès. Moi, c'est tout ce que l'être humain interagit, dans lequel il n'y aura pas besoin d'interagir. C'est un temps qu'on peut très bien calculer, puis qui, en bout de ligne, peut permettre une meilleure. T'sais, la question, c'est si notre réseau est optimal, combien de ressources avons-nous vraiment de besoin. Tu sais, moi, en fonction de... Tu sais, on comprend qu'aujourd'hui, on vit plus vieux, mais on vit plus longtemps en santé, en principe.
C'est ce qu'on souhaite. C'est pas si clair que ça, qu'on vit plus longtemps en santé.
Oh, ouais.
Mais disons qu'on est plus longtemps dans le réseau de la santé à la fin de nos
vies. Ouais, fait que, tu sais, il y a peut-être une période, là, actuellement. Remarquez bien que les jeunes, c'est pas trop la tendance chez les jeunes au niveau de la prévention, parce que là, les statistiques n'ont pas l'air belles, là. Fait que, mais tu sais, encore là, si on joue sur le comportement, si on joue sur l'éducation, puis tu sais, je rêve à ça un jour que dans le système d'éducation, on ait des cours sur la santé, dans le cursus de cours, soit à partir du primaire, puis aller jusqu'au cégep ou université. Mais, tu sais, comment interagir avec le réseau de la santé? Comment, tu sais, parler de prévention aussi? Tu sais, Pierre Lavoie fait un travail extraordinaire, mais moi, mon médecin de famille, il m'a jamais prescrit de cube d'énergie. Tu sais, parce que j'ai pas d'enfant, fait que là, c'est correct, là, tu sais. Mais, tu sais, il faut s'assurer qu'on touche tout le monde. Fait que peut-être que dans notre système d'éducation, tu sais... Est-ce que la géographie puis l'histoire, des choses qui sont maintenant qu'on peut aller chercher sur le web facilement, pourraient pas être remplacées? Je dis l'histoire puis la géographie, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut pas être changé par un cours sur le réseau de la santé et l'interaction citoyenne avec le réseau de la santé pour faire des citoyens nous autres faciliter l'engagement parce qu'on a de meilleures connaissances.
En même temps, c'est drôle que tu dises ça, l'histoire et la géographie, parce que je me faisais la réflexion, je me demande si on ne prend pas certaines choses pour acquis aussi dans nos sociétés, comme la valeur de la démocratie, des choses comme ça. Donc, je me demande si on a continué. Je me demande si on enseigne ça aux enfants aujourd'hui.
Je sais pas.
C'est quoi la démocratie? Puis, quels sont les bénéfices par rapport peut-être aux désavantages, je sais pas, de vivre en société, je sais pas si ça leur est enseigné. En tout cas, bref.
En tout cas, dans mon cas, dans mon temps, ça ne l'était pas.
Mais tu parles de prévention chez les jeunes. Moi, personnellement, si j'étais ministre de la Santé ou de l'Éducation aujourd'hui, à l'école primaire, je peux te dire que ce que je ferais, c'est que l'école, ça serait terminé à midi et demi, on mange, puis on sort dehors. Puis l'après-midi, on fait du sport pendant 2 à 3 heures. Puis je pense que 20 ans plus tard, on aurait probablement certains bénéfices. Puis peut-être l'autre chose que j'aurais fait, puis qui aurait pris l'exemple des pays nordiques, peut-être à certains égards, c'est que j'aurais peut-être dédié une portion, par exemple, des revenus de l'Auto-Québec au sport chez les jeunes, ouais. puis que ce soit immuable.
Ouais.
Puis peut-être qu'on aurait des jeunes plus en santé aujourd'hui, puis qu'on aurait un retour sur notre investissement. Là, voilà.
SQDC aussi.
Entre autres. Mais on vit dans une... On
a ah, mais ça, ouais.
C'est le sujet d'un autre épisode.
Oui, c'est ça.
Médix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues, et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Médix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Médix. Médix est fier de desservir plus de 60 % des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com. www.medix.com ou téléphonez au 514-548-2500.
Alors ça, c'était le premier projet. Le deuxième, c'était ouais, le diabète, l'engagement.
Oui. Juste finir avec ce projet-là, oui. on a eu jusqu'à 49 personnes qui travaillent sur ce projet-là.
Quand même.
Des étudiants de l'Université Laval, des chercheurs.
Ça, c'est en cours, là.
Ça, c'est en cours actuellement, puis... Ce qu'on souhaite, c'est qu'on... Moi, je suis juste un initiateur de ce projet-là, mais je fais la promotion également de ce projet-là. J'ai plus d'autres intérêts que ça, comme tel, mais si ça peut aider, ben, je pense que... Et je pense que ça va aider. Il va falloir un jour y arriver, parce que, pour pas tout vous dire, on manque de ressources. Je suis tanné de l'entendre, cette chanson-là. Là. On a-tu d'autres choses que ça à présenter? Puis tu sais... Monsieur Boulet, Jean Boulet, avait parlé de numérisation ou d'automatisation. Il parle souvent d'usines, d'automatiser les usines. Mais c'est pas différent dans les tâches qui sont pas, qui apportent pas de valeur qui, comme telles. Faire toujours la même chose, à la même heure, tout le temps, c'est démotivant. Ça crée pas un environnement intéressant. Fait qu'il faut faire attention à nos ressources. On s'en rend compte de plus en plus. Deuxième projet. C'était un projet où il y avait mon médecin de famille qui voulait faire un projet de recherche sur le diabète de type 2. Puis elle voulait utiliser un podomètre standard, là, comme tel. Pour... En fait, l'objectif du projet, c'est pour voir s'ils sont suivis par un physiothérapeute, un ergothérapeute, une infirmière praticienne, puis une nutritionniste. C'est ça. Voir si on les suivait, leur comportement face à l'activité physique changeait. Oui, fait que je trouvais ça... Ça, c'est la version traditionnelle.
Ça, c'est le groupe contrôle.
C'est ça.
Dans le projet d'étude.
Ce que j'ai proposé à mon médecin, j'ai dit, on pourrait... les gens ont des mondes connectés. De plus en plus, comment ça a un impact sur leur vie. C'est pas le sportif qu'on veut traquer. Là. On parle du diabète de type 2. Comment, avec ce genre de montre-là ou de podomètre, t'es pas obligé de prendre une montre, on peut prendre un podomètre électronique comme tel, puis ça pourrait impacter. Fait que ça, on a créé un deuxième groupe.
Ça, c'est le groupe à l'étude.
C'est ça. Merci beaucoup.
Non, parce que j'ai lu l'article.
C'est OK, c'est bon.
Que je mettrai les références sur tes notes de balado.
Okay. Merci. Fait que là, écoute, ça a été 86 % des gens après le 3 mois ont des gens qui avaient des montres connectées où on parle de Fitbit dans le projet de recherche, mais ça, c'est une marque, là, tant qu'à moi. Là,
tout à fait.
C'est pour ça que je dis une montre connectée. On s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion à l'activité physique surprenamment élevée en utilisant une montre connectée. Fait que, puis on sait que le diabète de type 2, ben, ça entraîne d'autres types de maladies chroniques. On sait que c'est pas bon pour la santé comme tel. Puis on sait que l'activité physique est un élément qui permet de diminuer le diabète ou d'éliminer complètement le diabète de type 2 par un comportement différent. Puis par la nutrition, par l'activité physique. Fait que c'est super intéressant. Fait qu'on est, on a été cité dans quelques revues américaines. Fait que, puis ils disent toujours, c'est le patient qui a amené ce projet de recherche-là. Puis, ben, tu sais, je veux dire, j'ai mis un autre chercheur avec mon médecin de famille parce que elle était faculté de sciences infirmières, elle faisait des projets technologiques. Fait que j'ai uni tous les deux. Puis, suite à ça, j'ai dit, il nous manque une affaire par rapport à ça. Il nous manque comment on l'amène maintenant. Là, on a des données pour 3 mois, là. Mais si on veut changer le comportement pour ces gens-là, est-ce que le médecin ne devrait pas être au courant de ces, ou avoir un portrait de ses activités? Parce que moi, si j'arrive avec ma montre puis je monte sur un portail, il sera pas, il n'y aura peut-être pas l'intérêt ou il n'y aura peut-être pas le temps là, à me consacrer pour que je monte tout ça. Fait que j'ai dit, on pourrait peut-être prendre les données qu'on a sur notre montre, comme telle, puis les envoyer dans un formulaire qui serait générique pour tout le monde, qui serait le même formulaire pour tout le monde, parce qu'indépendamment du DME que tu utilises, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs DME qui appartiennent à des entreprises privées.
DME, dossier médico-administratif. Médical électronique.
Et ça, il y en a 7, je pense, au Québec, 7 fournisseurs différents. Prendre ces données-là, le mettre dans un formulaire générique pour qu'on ait un portrait des habitudes de vie de la personne ou de la personne atteinte du diabète de type 2. Et que ça puisse s'intégrer dans le DME. Peu importe le DME. Lorsque le médecin rencontre le patient, ben là, il a sa page d'habitudes de vie. Puis là, il peut parler d'habitudes de vie, de prévention, il peut parler de ça. Parce que s'il n'y a pas l'information, il n'y aura pas tendance à en parler parce que tu as peut-être d'autres choses à lui parler avant. Mais si on veut susciter l'intérêt de l'un et de l'autre, il faut que l'information elle soit disponible pour...
Facilement.
Ouais. Puis dans son DME, pourquoi? Parce que le médecin n'ira pas sur un portail
autre
que le DME. Fait que c'est ça le projet de recherche. Donc, la deuxième partie, c'est ça qu'on a fait une demande là, de subvention pour la deuxième partie pour l'envoyer dans le DME.
Qui est à venir, ça.
Qui est ça.
OK.
C'est ça. Mais je suis fier de ce projet-là parce qu'on parle de prévention, tu sais, puis on s'est souvent posé la question, c'est quoi l'impact, tu sais. Puis parce que souvent, les gens qui achètent des membres, c'est des gens qui sont déjà des sportifs, des gens qui se mesurent. Mais on fait quoi pour des gens qui ne se mesurent pas? Puis comment on les amène à prendre soin d'eux autres.
Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
Faire et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de services à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Faire et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fairevelours.com. Au plaisir de vous rencontrer!
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
Tu parlais de prévention, donc je ne suis pas un spécialiste, mais ça, on est un peu dans la prévention secondaire,
ouais. Donc,
parce que le patient est déjà diabétique,
ouais.
La maladie est déjà installée. Puis on a parlé un peu des enfants tout à l'heure. Là, la prévention primaire dans l'esprit de Christian Chabot, c'est quoi? Là, comment tu verrais ça, toi, là, tout ce que tu es de dire, mettons, d'aller chercher les gens là, avant que la maladie s'installe. As-tu déjà réfléchi à ça? C'est un enjeu majeur?
Pour moi, c'est un enjeu majeur.
Tu parlais de Pierre Lavoie.
Ouais. Tu... ben, des mentors semblables, là, comme tels. Je pense qu'il faut... Ben, je mets encore le système d'éducation. Là. Si j'essaie de trouver des plages horaires, du temps, là, je parle pas des adultes qui travaillent, je parle plus, si on veut commencer à la base, ce que Pierre Lavoie prône depuis longtemps, parce que Pierre Lavoie, les gens se reconnaissent à travers lui à cause de son histoire. C'est pas quelqu'un qui est né, qui était déjà un athlète... sportif là, comme tel. Quand on écoute son histoire, on se reconnaît un peu.
Sédentaire, fumeur.
C'est ça. Puis on regarde aujourd'hui ce qu'il est. Ben, c'est un exemple sur lequel on doit tabler. Mais malheureusement, on a l'impression, même il en fait beaucoup, on n'en fait pas assez de la publicité. En fait, puis il faut changer peut-être des fois les messages. Des façons, Pierre Lavoie, il est là. Moi, je le vois beaucoup dans la période du mois de juin, la période des fins des années scolaires. Comme tel, puis je sais qu'il fait ça à l'année, il donne des conférences à l'année, là. Mais publiquement, là, on le voit beaucoup dans son la marche Pierre Lavoie, le cyclisme Pierre Lavoie. Mais je pense que ça commence par l'éducation. Soit du temps scolaire ou soit de l'éducation constante. On va avoir, si je me souviens bien, le dossier santé numérique qui est le grand projet pour le ministère de la Santé, là, il devrait avoir un portail destiné aux patients, aux patients, aux citoyens, devrais-je dire. Parce que, puis là-dedans, tu devras être capable d'accéder à ton carnet de santé, puis avoir accès à de l'information pour le patient, citoyen. Mais là-dedans, toutes les habitudes, de vie, ça pourrait avoir des messages ou là, il pourrait avoir, tu sais, quand c'est la façon de communiquer avec le réseau de la santé, avec la population, je pense qu'on a une belle occasion de profiter justement pour aller chercher l'engagement, plus l'engagement de la part de la population par rapport à différents éléments comme la prévention.
Tu parles de Pierre Lavoie, mais j'ai reçu également récemment Jacques Aubin, qui est un ancien obèse. Un gars qui pesait 420 livres, 410, puis qui a décidé, là, à un moment donné dans la quarantaine, que ça s'arrêtait. Puis écoute, le gars, genre, a perdu 225 livres. C'est bien faire du sport. Puis essentiellement, le même message de promotion, là, donne des conférences, organise des activités pour les compagnies. Lui, un de ses modèles d'affaires, entre guillemets, là, parce que ça demeure quand même une passion pour lui, c'est d'aller dans les entreprises, puis de créer des défis entreprises. Donc, mettons, donc l'entreprise va... De ce que j'en comprends, là, donc l'entreprise va s'inscrire aux défis. Puis là, les employés vont être motivés par le fait que l'entreprise va participer. Donc, un exercice très, très intéressant qui est en pleine croissance.
Oui, à partir du moment que on voit ce genre d'activité-là, de défi entreprise là, comme tel, on voit ce genre d'activité-là de plus en plus parce que l'employeur considère que ses ressources sont importantes pour lui. Quand tu n'as pas besoin de courir après des ressources pour combler tes postes, c'est une chose, mais quand il faut que tu fasses attention à tes ressources...
Tout à fait.
Là, tu vas peut-être suggérer ou générer des genres d'activités qui vont permettre justement de prendre soin de tes ressources. Puis ça va autant psychologiquement que physiquement. Puis je pense que les entreprises commencent de plus en plus à dire que la plus grande valeur que nous avons, ce sont nos ressources.
Tout à fait.
Puis c'est pour les adultes là, qui travaillent. Je pense que c'est la porte d'entrée. Puis on en voit de plus en plus des compagnies, là, des grandes compagnies de télécom ou des grandes compagnies. Ils ont des programmes justement pour ça. C'est super intéressant.
C'est quoi la santé pour Christian Chabot qui a été quand même malade puis qui s'en est sorti puis qui travaille maintenant à améliorer le système de santé, la santé des gens?
Une bonne question. Pour moi, la santé, c'est d'être capable de faire des tâches, d'être capable de me lever le matin, puis des fois, on a des maux de dos, mais tu sais, ça, c'est peut-être plus souvent l'âge ou l'activité physique, comme on dit, l'arthrose, puis ces choses-là. Quand on comprend ça, ben, pour moi, la joie de vivre passe beaucoup par la psychologique, la santé comme telle. Okay. Puis quand pour moi, quand je suis positif, puis j'ai tendance à être positif, ben le reste suit.
En vieillissant, as-tu plus peur du déclin des fonctions cognitives ou physiques? Parce qu'on vieillit à deux niveaux.
C'est drôle, hein, de...
Tu parlais de capacité, là, en début d'entrevue, ton ACV, là, puis t'avais de la difficulté à lire, là, tu sais, donc toi, tu te projettes dans le futur, aimes-tu mieux avoir de l'arthrose au niveau des genoux ou avoir de la difficulté à lire un roman?
Je pense qu'avoir de la difficulté à lire un roman, pour moi, ça serait pire.
Okay.
Ouais, ça serait pire parce que la tête, je me rends compte que ça contrôle beaucoup de choses. Okay. Ça nous diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Parce que le physique, il va suivre si tu fais attention à ton physique. T'sais. Tandis que la tête, bien souvent, maladies cognitives ou c'est souvent contrôle pas
on a moins de contrôle là-dessus. Hein.
Mais... Non, moi, le positif, là, pour moi, est important comme tel. Puis, tu sais, à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours regardé par en avant.
C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, j'ai jamais posé, quand j'étais hospitalisé, j'ai toujours dit, ma job, c'est de sortir d'ici. Pose pas de questions, parce qu'il y a beaucoup de gens, ben, tu sais, ma conjointe, la première, a posé la question, y a-tu demandé ci, y a-tu demandé ça? S'il avait jugé l'importance de m'en parler, il m'en arrête de parler. Fait que ce que je dis, ben moi, il dit, j'écoute ce qu'il me dit, puis c'est tout. Okay. Quand il dit, as-tu des questions, je pose des questions, puis mais ça suffit à ce moment-là. J'ai pas besoin d'avoir 20 versions de la même réponse. Puis j'essaie de pas rester dans la maladie.
Okay. Ton implication dans le réseau, est-ce que ça vient du fait que tu considères que nous n'avons pas un bon réseau de santé?
On a au contraire.
Ou qu'on en a un bon qu'on veut juste améliorer?
Moi, je porte toujours l'idée qu'on a un excellent réseau de la santé. On a des gens extraordinaires, que ce soit au niveau du ministère comme tel, puis des gens soignants. On voit souvent des gens soignants, là, évidemment, mais en arrière de ça, il y a des machines qui fonctionnent. Puis il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce que les autres avec, ils ont la pression de livrer, mais ils sont méconnus.
OK.
T'sais, fait que moi, je suis plus là pour améliorer. On a des problèmes. Puis pour moi, c'est toujours le même problème, c'est l'accès. Comment on fait pour améliorer mieux l'accès? Si je débouche une place, puis ça permet à l'autre bout de permettre d'avoir plus de ressources, avoir une croissance à travers parce que j'ai débouché, je résous un problème à quelque part dans toute la trajectoire, ben c'est déjà gagné. T'sais, fait que puis parfois quand c'est pour ça que je dis que le patient partenaire est intéressant parce que nous autres on est en dehors de tout, on vit l'expérience patient. Maintenant, dépendamment des compétences personnelles que nous avons, on essaie de mettre ça à contribution à notre façon. T'sais, moi je parle des Vincent Dumaise de ce monde qui ont créé des organisations qui s'appellent le CEPPP qui s'occupent justement de la création de patients partenaires dans beaucoup de projets de recherche comme tel, puis c'est un peu lui la sommité ou l'organisation de CEPPP. Vincent aimerait pas dire que c'est lui, mais c'est lui le leader, je devrais dire le leader là, comme tel, puis il s'est créé toutes sortes de... Maintenant, le bureau de patients partenaires, ça existe dans les CIS, ça existe dans les CIUS comme tel. Ça existe. Moi, j'en ai mis implanté un à l'ISUPQ. Ça existe dans un centre hospitalier universitaire. Mais la question que je reste à déterminer, quelle est la valeur du patient partenaire? Je regarde ça. Moi, j'étais assis devant des gens, des PDG, des sous-ministres, souvent. Puis, tu sais, on a chacun notre point de vue, on a chacun nos idées. Puis, je pense que on n'a pas à avoir honte de... T'sais, des fois, on est gêné parce que on a l'impression qu'on connaît pas ça par rapport aux autres. mais c'est pas nécessairement sur la connaissance théorique, mais sur la connaissance expérientielle et les compétences que nous avons personnellement qui peut amener de la valeur, justement.
Mm-hmm.
Tu sais, moi, je connais de la technologie, mais j'applique ça à mon savoir expérientiel. Les réflexions que je fais, c'est toujours par rapport à ce que je connais, puis dans le but de chercher d'autres connaissances, si jamais d'autres connaissances, puis de fouiller à travers le web pour voir qu'est-ce qui se fait d'autre, puis comment on pourrait l'appliquer. Mais ça, c'est basé sur mes connaissances expérientielles de patients, puis tu sais, la radiologie m'a aidé beaucoup pour les PACS, je sais comment ça fonctionne, puis tu sais, ces éléments-là, puis les applications qui fonctionnent dans le réseau de la santé, les projets, le CRDS, exemple, je connais le CRDS parce que j'ai participé à la présentation du projet là, comme tel. Le ministère m'a interpellé comme patient partenaire pour ça. La RVSQ, c'était la même chose. Tu sais,
RVSQ, c'est...
Les Rendez-vous Santé Québec.
Okay.
qui était à la bouture que Dr. Barrett avait commencé à créer au moment avant que le Parti libéral quitte. Mais tu sais, ces projets-là m'interpellent parce que c'est les projets qui sont les projets porteurs au Québec. Puis s'assurer que ça fonctionne bien, tu sais, qu'il n'y a pas de délai, tu sais, les délais d'attente, il y en aura peut-être toujours, mais tu sais, il faut comprendre pourquoi on attend, tu sais. On a beaucoup d'indicateurs de gestion actuellement, là, comme tel. Est-ce que les indicateurs de gestion, pour moi, en tant que citoyen, ça m'interpelle quand j'arrive, puis durée moyenne de séjour, durée moyenne du temps à l'urgence. T'sais, je voudrais pas créer de fausses attentes aux gens, parce que dans le fond, des fois, si je dis que ça prend 2 heures la durée moyenne, puis entre-temps, ben, il y a des gens de P1 qui passent en avant de moi, c'est normal. Puis moi, je suis un P3. Un P3, c'est ce que je suis traité comme un P2 ou un P4. T'sais, fait que on sait tous maintenant qu'on va attendre longtemps aux urgences. Moi, si je peux rester à la maison puis être capable d'avoir une direction à partir de la maison pour aller au bon endroit, aller voir le bon médecin.
Avant d'aller à l'urgence.
C'est ça. L'urgence, c'est pour moi, c'est quand j'ai pas le choix. Mais quand j'appelle au 811, on me dit toujours, avec le background que j'ai, va être en urgence.
C'est
ça, ouais. Ben, tu sais, des fois, non. On ne me tente pas d'aller à l'urgence. Mm. Je prends la place d'un autre. Puis je pense que la technologie est rendue là. On aura la capacité d'avoir des solutions qui existent, justement, pour être capable il appelle ça un symptôme checker. À partir de ces symptômes que tu as, dire, ben, tu as un pourcentage, que ce soit ça, 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 voici les recommandations que je te fais. Veux-tu que je prenne un rendez-vous pour toi? T'sais.
Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique préopératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca.
Je pourrais imaginer qu'avec l'intelligence artificielle,
ça existe déjà,
l'équivalent de ChatGPT, de dire voici les symptômes que j'ai, puis une genre de fiche conseil.
Ouais. Peut-être qu'à travers notre DSN. Là.
Peut-être que cette application-là t'aurait parlé de syndrome compartimental, d'ailleurs, dans le temps. Là.
Peut-être. Puis là, à ce moment-là, j'aurais su quoi faire.
Tu serais allé quelques jours plus tôt.
Oui!
Dis-moi, je serais curieux de t'entendre quelques minutes, si tu veux, sur où tu vois le privé dans tout ça, donc contre ou une zone grise.
Ben, le privé, je viens du privé. Mm. Fait que, tu sais, on est. Le privé est complémentaire, tant qu'à moi. Tu sais, Il y a des services qu'on ne peut pas offrir. On a un système public là, comme tel à laquelle on devrait avoir accès. Mais quand tu n'as pas accès, le privé devrait donner un coup de main. Puis je suis d'accord avec l'idée de dire qu'on n'a pas d'affaires à payer. C'est que le ministère s'organise pour payer
les soins dans le privé.
C'est ça. Okay. De sous-traiter les soins dans le privé.
OK.
Qui soient complémentaires à notre réseau de santé et non pas.
OK.
Moi, par défaut, tu sais, je fais confiance à mon réseau de santé publique. Je suis pas encore allé dans le réseau privé, puis je préfère dire que je vais attendre que le public me l'offre.
OK.
Plutôt que d'aller dans le privé. Parce que je considère que je paye assez cher de taxes.
De taxes.
Tu sais, si je ne payais pas d'impôts là-dessus, 50% de mes impôts s'en vont là, c'est parce qu'on ne peut pas l'améliorer. Mm. Tu sais, je n'ai pas d'empoigne sur l'amélioration de mon réseau de santé si je vais ailleurs. Tu sais, moi, pour moi, c'est. D'abord, j'ai toujours été excessivement bien traité. Je suis encore là aujourd'hui pour en parler. Puis, fait que c'est ça. Comme disait, l'accès est difficile. Mais puis je veux pas être traité comme d'autres. C'est pas parce que j'ai eu un background comme j'ai là de santé qui fait en sorte que je vais passer en avant d'un autre. Non. Fait que pour moi, le privé est complémentaire.
Christian, il y a toujours en fin d'entrevue une petite section baguette magique. Ou presque toujours dans mes entrevues. Je ne sais pas si c'est une âme de magicien, mais avec tout ce que tu m'as dit, si je te laissais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui, par magie, là, tu peux faire ce que tu veux.
Citron. Ben moi, c'est drôle, là, je vois souvent, tu sais, moi, j'aimerais comme la tendance a l'air à se dessiner, là, apolitiser le réseau de la santé.
Même pas le dépolitiser. Apolitiser, donc évacuer complètement le politique.
Ben, c'est parce que le problème qu'il y a, c'est que les durées de mandat sont courtes.
Tout à fait.
Pour un pauvre ministre de la Santé qui essaie de faire un projet, souvent, il va-tu se rendre assez loin que le projet il va être continué si jamais c'est un autre gouvernement qui prend sa place?
Mm-hmm.
Tu sais, fait que, puis des fois, on voit des projets qui sont arrêtés pour des raisons que ça ne va pas avec la vision du prochain gouvernement. Mm-hmm. Tu sais, fait que, tu sais, c'est l'ouvrage. Les orientations, tu sais, tant qu'à moi, comme on fait là, tu sais, les orientations, bon, des génériques, je devrais dire, là, ça peut, tant qu'à moi, ça peut rester politique, mais, tu sais, exemple, un projet, là, n'importe quel projet, là, DSN va prendre 10 ans, mettons, ou 6 ans, ou 8 ans, va prendre une durée, là, je sais même pas si je vais être encore sur Terre quand le projet va être déployé, là. J'aimerais mieux trouver des façons à être beaucoup plus agile dans les. Je comprends que le réseau de santé c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bureaucratie et ces choses-là. Mais quand on a des bonnes idées puis on veut les mettre en place, on a l'impression que c'est lourd. Je pense à tous les projets technologiques, parfois, il y a dossiers d'affaires, dossiers d'opportunités, RFI, RFP. Au bout d'un an et demi, t'as fini d'écrire tes affaires, ton fournisseur est choisi, fait que ça prend 2 ans. Fait qu'imagine un gouvernement là, qui est là, il est là pour 4 ans, lui, là. Puis c'est pas si dans 4 ans, il va être réélu, puis dans 2 ans, ben, le fournisseur est choisi. Il n'y aura même pas le temps de commencer, puis on va juger sur des choses qui ne contrôlent pas.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, oui, la politique contrôle la politique, mais à un moment donné, ce qui est fait au niveau administratif, là, comme tel, les processus d'acquisition, ces choses-là, c'est lourd. Là,
non, mais il y a ça, puis je veux dire, c'est qu'on est complètement dans le tape à l'œil, là, je veux dire. T'sais, le meilleur exemple qu'on peut avoir, là, puis parce qu'on y est, là, on est dans Jean Talon, là, ici, on est dans le comté de Jean Talon aujourd'hui. Là. La CAQ a perdu ses élections partielles récemment. Mm. Le premier ministre sort en disant « Ah ben finalement, le troisième lien, c'est peut-être possible. » Ça n'a aucun rapport, là. Mm. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec la partielle de Jean Talon. Puis le consensus quelques semaines avant était que le troisième lien n'était pas nécessaire. Mais ça, c'est un exemple, puis c'est tellement gros, même grossier, puis flagrant que là, les gens s'en rendent compte, mais c'est la même chose en santé. Mm. Alors, si on parlait de prévention tout à l'heure, là, qui va investir? Puis là, je le dis à presque toutes les fois que quelqu'un mentionne ce point-là, parce que tu n'es pas le premier, évidemment, qui suggère ça. Qui va investir dans un programme actuellement qui vise à plus faire bouger les enfants ou autre, puis dire, ben à ce moment-là, par contre, on va couper ailleurs dans le réseau de la santé. Le rendement est dans 20 ans. Ouais. C'est long. Je veux dire, puis il faut gagner les élections dans 2 ans. Mm. Ça ne marche pas. Et l'autre enjeu que je vois, un des autres enjeux que je vois, c'est que dans une structure comme on a là dans le moment, la tendance est à rajouter des couches. Comme tu disais que c'est compliqué. Là. La tendance est de rajouter des couches pour régler des problèmes, mais alors que moi, je pense qu'il faut en enlever. Là. Il faut enlever des couches. Là. Tu parlais de difficultés à faire avancer des projets. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est à l'époque que j'ai commencé à travailler à Drummondville, moi, en 97. Mm. Puis au début des années 2000, c'était le début de la chirurgie laparoscopique. Là. Donc, à grande échelle, c'est pas vrai. Au début des années 2000, c'était le début des salles d'opération modernes de chirurgie laparoscopique. Ce qu'on appelait des salles intégrées. Donc, où l'ergonomie de la salle d'opération, la transmission d'informations.
Ce qu'on appelle des salles hybrides.
Les salles hybrides, on était peut-être rendu encore un peu plus loin, mais l'informatisation de la machine qui gère la salle d'opération. Donc, puis ça, c'est un projet, à l'époque, moi, j'avais deux collègues à Drummondville, là, Steve Miller, Richard Laplante, notamment, qui voulaient aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, d'avoir une salle d'opération qu'on appelait de chirurgie laparoscopique avancée. Donc, c'est le NEC le plus ultra, il n'y en avait pas au Québec. Puis à Drummondville, Steve est rentré dans le bureau du directeur général puis a dit, écoutez, ça nous prend une salle de chirurgie laparoscopique. Là, nous, à Drummondville, on est un groupe dynamique dans un domaine-là. Puis le DG, à l'époque, de mémoire, Pierre Levasseur, a dit, c'est une excellente idée. T'sais, bon, mais combien ça coûte? À l'époque, donc, c'était pas cher dans le temps, mais c'était 150 000 $ à peu près. 150-200, là, t'sais. Alors, parfait. OK, on va faire une levée de fonds. T'sais, la porte d'à côté, c'est la fondation de l'hôpital.
C'est la fondation de l'hôpital.
On va faire une levée de fonds. Parfait. OK, excellent. Ça prend combien? 150 000? Parfait. Alors moi, je me rappelle, j'avais été sollicité pour aller rencontrer les bénévoles qui appelaient les partenaires pour leur expliquer c'était quoi, pour que les bénévoles puissent expliquer aux donateurs, voici le groupe de chirurgiens de Drummondville veut une salle de chirurgie laparoscopique avancée. Écoute, je pense que 30 jours plus tard, on avait 150 000 $ Un an plus tard, la salle était construite. Faire la même chose aujourd'hui, là, à Québec, peut-être 5 ans.
Même en si passant par la même recette à travers la fondation. Parce que les fondations sont...
Ça va être trop gros. Les structures sont trop grosses. Je veux dire, tu vas avoir des comités, puis là, les gens vont... ce que tu disais tout à l'heure, tu sautes d'une réunion à l'autre, tu arrives 2 ans après, 3 ans, puis pendant ce temps-là, vu que tu es dans une grosse structure comme ça, il y a beaucoup des intervenants qui ont changé. Alors, il y a beaucoup de temps qui se perd parce que finalement, tu arrives à une réunion, finalement, tu dis « Ah! Oh, » Finalement, tu es du côté du génie biomédical, c'est pas la même personne.
Alors, c'est ça.
Alors, on va réexpliquer un petit peu où on en est. Puis c'est sans attaquer une personne précisément. Structures grossissent.
Ouais. Les fusions d'organisations ont fait en sorte que ça a grossi énormément. Mm. Puis, tu sais, on n'a pas tous les compétences en tant que gestionnaire, mais nécessairement de partir de X puis de monter à Y. À un moment donné, ça dépasse nos connaissances, mais nos capacités.
Ou notre motivation.
Ouais.
Qui est un enjeu majeur.
C'est la reconnaissance de l'être humain comme tel à travers des organisations était super importante. Puis pour moi, tu sais, ce que j'ai aimé, moi, c'est le bureau d'innovation. Tu sais, le bureau d'innovation, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une partie qui, traditionnellement, devait se faire à travers des mettons, des, ce qu'on appelle des RFI, là, Request for Information. Là. Donc, ça veut dire aller voir sur le marché ce qui existe. Moi, je vois très bien le Bureau d'innovation faire ça en amont des projets, être des visionnaires de ce que ça devrait être, des porteurs de ça. Puis en agilité, c'est beaucoup plus facile. Fait que t'as pas de... T'as presse à remplir, t'as pas ci, t'as pas ça. Ils sont quand même évalués par un comité qui dit qu'autorise ou pas les projets. Mais pour l'avoir vécu avec le projet de pneumologie, ça faisait du sens, ça répondait des besoins. Ils sont allés se faire valider notre projet. Ils sont revenus dire « oui, c'est correct, ça répond à des besoins factuels. On va vous autoriser à le faire. »
Mais ce bureau d'innovation-là, c'est une forme de centralisation quand même. Parce que c'est le ministère de la Santé.
Oui, c'est le ministère de la Santé.
Parce que dans le fond, si on prend un peu de recul, là, si l'hôpital Laval pense que ce projet-là est bon, pourquoi l'hôpital Laval aurait besoin d'avoir l'aval du ministère de la Santé?
Oui, mais l'hôpital Laval, c'est lui, il trouvait que c'est bon, mais le projet initial, tu sais, on a présenté le projet sans client, sans hôpitaux.
OK.
Et après ça, il fallait se mettre à chercher
se un trouver. Partenaire. OK, je comprends. OK.
Fait qu'on présente le projet comme tel. OK, c'est intéressant. Maintenant, trouvez-vous. Puis c'est là, tu sais, les chercheurs, les contacts des chercheurs, ils font affaire avec des hôpitaux. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé que c'est l'hôpital Laval ou l'UCPQ et la pneumologie.
OK.
Parce que c'est moins difficile peut-être que la cardiologie. T'sais, en termes de technologie là, comme telle, il y a moins d'équipement là, peut-être aussi. La trajectoire était plus facile. Les trajectoires que je parlais tout à l'heure étaient plus faciles à regarder.
Alors, c'est la réponse la plus longue à la question de baguette magique.
je pense que c'est...
Donc, on revient à apolitiser le système de santé pour bien...
Ouais, puis
c'est un bon choix.
Ben, c'est parce que le problème, c'est ça les met dans le trouble. Tu sors, tu fais élire à cause de la santé, puis tu sors à cause de la santé.
Mais en même temps, c'est 50% de leur portefeuille, donc...
Ouais, mais tu trouves une façon plus... Les orientations, je trouve ça bien, tu sais. Mais il faudrait mettre des conditions. Quand tu commences, si un gouvernement commence tel projet, il ne faudrait pas l'arrêter. Les besoins sont les mêmes à un moment donné. C'est pas parce que la couleur d'un parti.
Mais si c'était gouvernement paragouvernemental, ce serait réglé. Là. Ouais. Un peu comme Hydro-Québec.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est NHS en Angleterre qui fonctionne un peu de même.
Ce serait que je.
Mais ça, en tout cas, peu importe, là, l'idée, c'est ça.
As-tu une rencontre de rêve, disons, donc... Si tu pouvais prendre un verre, un café, un verre d'eau...
Oui! Ben, moi, je suis né en 59, fait que... Il y a un verre que j'aimerais prendre, c'est avec John F. Kennedy.
Okay.
Parce que... Tu as posé la question à Mme Bourdon comme telle, puis elle t'a répondu John F. Kennedy, elle se souvenait de John F. Kennedy, puis moi, je m'en souviens qu'on était devant la télévision pour écouter les funérailles de John F. Kennedy, puis je me souviens, en 62, la baie des cochons, quand on était en attente, il va-tu avoir une guerre ou pas? Fait que c'est tout dans l'épisode de John F. Kennedy. Puis on est rendu en 2023. Puis on en parle encore de John F. Kennedy. Je te dirais que j'ai quand même eu le plaisir de le rencontrer.
OK.
Ouais. en 2019, j'ai fait une septicémie.
Une septicémie, oui.
C'est ça. Puis là, j'ai été... ça n'a pas été une période facile. J'ai été un mois au soin intensif à Saint-François. Puis j'ai été intubé une quinzaine de jours, là, comme tel. Puis après ça, j'ai fait un délirium. Puis dans mon délirium, tu sais, je me souviens d'avoir parlé avec John F. Kennedy, puis il m'avait dit qu'il l'avait tué. Fait que j'ai dit, je peux pas le dire aux autres, parce que... C'est top secret.
Okay. Très intéressant.
Mais juste pour finir, étant donné que j'ai déjà rencontré John F. Kennedy, moi j'aimerais ça avoir une discussion avec M. Dubé. J'ai beaucoup d'empathie pour lui, là, comme tel, parce que je trouve que il me semble que j'aurais confiance, j'ai confiance en lui, là, comme tel. C'est la personne avec laquelle j'aimerais prendre un verre ou un café.
En tout cas, il faut respecter son courage, parce qu'on sait que c'est un abattoir, là, le poste
ministre
de la Santé. Là.
De gauche, droite, centre, en fait, tout ce qui touche santé devient très complexe.
As-tu une cause qui tient à cœur?
Oui, SAPSA.
As-tu une fondation, SAPSA?
Ouais.
Ah, intéressant.
Sont près des gens qui mon père traitait, là, des toxicomanes. Fait que mon père, quand c'est un peu une sorte de rendre hommage à mon père, mais c'est une cause qui, tu sais, pour moi, quand des fois les gens qui ont moins les moyens, ils sont plus démunis. J'aime pas le mot démunis. Tu sais, ils ont de la difficulté, là. Faut pas les oublier, ces gens-là. Puis pour moi, ça m'interpelle tout le temps. Ils sont tellement intéressants. Moi, j'ai la chance, des fois, dans des réunions de patients partenaires, de voir des gens qui viennent de ces communautés-là. Ils ont tellement de bonnes idées qu'on ne peut pas se passer de ces gens-là. Faut trouver une façon des interpeller puis des inclure dans notre système de santé.
Mais beaucoup de ces organismes-là, on a l'impression, sont toujours en
Toujours sur le bord.
Menacés, hein?
Ça,
leur survie est dépendante, parfois aussi des gouvernements. Parfois, les subventions baissent, les orientations gouvernementales changent. Puis là, pouf, on coupe un peu dans le communautaire, ça paraît pas trop. Puis là, à moins qu'eux crient assez fort. Là, j'entendais même Moisson Québec cette semaine, qui est sorti publiquement pour dire, écoutez, ça ne fonctionne plus. Un autre organisme dans le coin de Limoilou, les locaux sont trop petits. Puis là, l'intervenant disait, il faut que je parle au maire, là, tu sais, Bruno Marchand, là, on a besoin d'espace, là, on dessert, je sais pas, au moins 1 000, 1 500 familles.
Ah non, puis c'est du monde, là, c'est du monde que peut-être que potentiellement on connaît, puis on sait pas, là, tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui sont gênés de leur état de situation, puis tu sais, quand on parle des gens qui demandaient pas pour aller chercher de la nourriture, maintenant, qui demandent pour aller chercher de la nourriture, parce qu'ils sont pas capables d'arriver. C'est pas drôle, là. C'est près de nous, là. Tu sais, moi, il ne m'en reste pas assez long dans ma vie, là, mais pour les gens, là, ça me fait de la peine, ça. Je trouve que ça m'interpelle beaucoup.
Christian, je te laisse le mot de la fin.
J'en ai encore à dire beaucoup, mais, mais je pense que... En tout cas... Je suis content de mon implication dans la santé. J'ai l'impression parfois que je peux déranger. Je dérange. Mais c'est jamais pour mal faire. C'est toujours pour amener des solutions. J'ai donné une conférence au comité de protection des malades avec Maître Brunet. J'ai été invité à donner une conférence là. Puis j'essaye de démontrer que j'aime mieux arriver pour proposer des choses, des solutions, plutôt que...
Critiquer.
Puis si moi, je peux être un exemple, ben tant mieux, j'ai atteint un peu mon objectif de vie. Quand je me lève le matin, je pense au réseau de santé. Quand je me couche le soir, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Quand je me relève, fait que c'est omniprésent en moi. Fait que c'est... Malheureusement, je suis fait de même.
C'est une belle qualité.
Merci.
Christian, merci.
Merci.
Au plaisir.
Au plaisir.
Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.